Nous vous invitons à suivre la grande édition, une présentation de Rodrigo Leroy Benga. Rodrigo, bonjour.
Bonjour Verdiane, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Quatrième jour ce dimanche du dialogue de Khartoum au Soudan, les discussions se poursuivent à huis clos, notamment sur le projet d'un accord de paix. À Bambari, malgré un calme qui règne dans la ville, des habitants déplorent des assassinats à périphérie de la ville. Précision dans ce journal. À suivre également un reportage dans la ville de Boire, le quartier Aoussa peine à retrouver son ambiance d'antan. En sport basketball, poursuite de la 8e journée du championnat de la Ligue de Bangui. À 15h30, Red Star sera face à Tondema, suivi du duel explosif entre les Abeilles et Nuitec Bantou. Et pour la présentation de ce journal, nous sommes deux. Bonaventure Ngomba Katikiro, bonjour.
Bonjour Rodrigue Leroy Benga, bonjour à tous.
Ouvrons ce journal avec le dialogue de Khartoum qui est à son quatrième jour aujourd'hui.
Les discussions se poursuivent entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés dans la capitale soudanaise. Les négociations se poursuivent à huis clos sur un probable projet d'accord définitif de paix. Plus de précisions dans nos éditions de ce soir.
Retour ici au pays, précisément dans la Waka, où les rebelles de l'UPC se battant en retrait devant la force de la MINUSCA se vengent sur la population civile.
Des sources locales indiquent qu'ils ont tué hier 2 personnes dans leur champ à 30 km de Bambari sur l'axe Bakala. C'est ce que confirme cet habitant de Bambari, joint au téléphone par vous, Rodrigue.
C'est ce qu'ils font actuellement ici. Titre illustratif, hier au niveau de P430 sur l'axe Bakala, au niveau du village Yamale, ils ont tué 2 personnes là-bas. En fuyant, ils ont tué 2 personnes là-bas.
C'était un habitant de Bambari, joint au téléphone par Radio Nekeluka. La suite de ce journal nous conduit dans la Nana Mambéré où les activités commerciales peinent à reprendre, notamment au quartier Aoussa à Boire.
Ce grand quartier à majorité musulmane est dépeuplé après les événements militaro-politiques de 2013. Armando Yanguindi, de passage à Boire, a fait un tour dans le marché. Reportage.
Mardi 9 janvier, il est 17h dans le marché de quartier Aoussa Boire. Ici, on peut compter au bout du doigt le nombre de commerçants. L'ambiance n'est pas comparable à celle d'antan. Les vendeuses de légumes, arachides, manioc, quelques produits de première nécessité ont de la peine à écouler leurs produits dans un délai raisonnable, comme en 2011-2012. Les pratiquants des petits commerces se plaignent de cette situation. Lucienne Saramandi, vendeuse des légumes.
Nous n'arrivons pas à faire écouler nos produits. Il n'y a pas d'argent. C'est à cause de la crise qui a secoué le pays. Nos meilleurs clients musulmans sont partis. Et c'est très difficile. L'argent ne circule pas. Si c'était avant cette crise, j'allais déjà vider le tas de cette amarante douce. Maintenant, nous sommes peinés. Il nous faut 1 à 2 semaines. Il y a de la mi-vente.
Paterne, un des vendeurs de miroirs au quartier Aoussa, explique son quotidien et demande au gouvernement de favoriser le retour effectif de certains Centrafricains en exil, à l'étranger ou en déplacement interne dans le pays.
Je vous donne un exemple. Avant la crise, je pourrais vendre 2 à 3 jours seulement mes miroirs. Mais maintenant, tu vas traîner avec cela 1 à 2 mois. Et c'est une dépense supplémentaire sans bénéfice. Le départ massif de nos frères musulmans nous a mis en difficulté. Ce sont nos meilleurs clients. Le conflit est mauvais. Nous réclamons du gouvernement seulement la paix.
Car c'est Aoussa qui fut le poumon économique de Boire n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses habitants ont pour la plupart fui lors de ces crises qui ont secoué la localité. Aujourd'hui, seulement quelques-uns ont regagné entre 2013 et 2014 leurs habitations. Armando Yanguindi, de retour de Boire, Radio Ndikeluka.
Merci Armando Yanguindi. Bonaventure, dans la suite de ce journal, rétrocession des matériels du projet Londo 2 à Bangassou.
Et oui, Rodrigue, c'est donc vendredi dernier que les matériels ont été officiellement rétrocédés à la mairie de la ville. C'était en présence des autorités préfectorales et les membres du comité de suivi des outils.
Correspondance de Jean Balipio.
Tout est bien qui finit bien. C'est sur cet adage qui a guidé la coordination régionale du sud-est de projet Londo a procédé le 25 janvier 2019 à la remise des matériels et outillages à la municipalité de Bangassou. Les outils sont entre autres composés des pelles, des brouettes, des pioches, des râteaux, des baramines pour ne citer que cela. Durant les 4 mois des travaux, 36 km de route ont été réfectionnés. Lors de cette cérémonie de rétrocession, les donateurs ont invité la municipalité de bien garder ces outils à faire bon usage car elle aura la responsabilité de continuer les travaux à travers le projet de cantonnage communal, lequel projet consistera à consolider les acquis du projet Londo 2. Quant au maire de la ville, Théophile Demba, remercie le dit projet pour les œuvres réalisées et a rassuré la population de la bonne conservation du matériel hérité. Jean-Baptiste Bangassou, Radio de Kérouka.
Merci Jean-Balipio. L'association Yali Centrafrique accompagne les jeunes centrafricains vers l'émergence.
À travers cette organisation, bon nombre de jeunes ont fait tant de succès au niveau mondial en 2018. Le prix mondial de la jeunesse pour l'humanisme décroché par un centrafricain reste un exemple vivant pour le pays.
Au cours d'un point de presse hier à Bangui, Dr Cédric Legrand-Wanekboné, détenteur de ce prix mondial 2018, appelle les jeunes à se saisir des autres opportunités qu'offre Yali. Il est au micro de Faustin Modeste.
Le plan que nous avions en tête, c'est voir comment travailler avec toutes les structures avec lesquelles nous avons toujours œuvré pour pouvoir renforcer les capacités des jeunes pour qu'ils puissent garder la flamme de ce prix toujours allumée. Nous pensons à soit un prix national de l'humanisme pour la jeunesse, pour que les activités qu'un jeune qui réalise, soit au niveau de Ndélé ou de Bambari ou au niveau de Mbaïki, puisse être valorisées et que cette initiative puisse inspirer aussi les autres jeunes dans les autres parties du pays pour qu'ensemble nous pouvons travailler pour pouvoir faire rayonner l'humanisme dans les moments difficiles de notre pays. Ce prix, c'est un appel très fort lancé à la jeunesse centrafricaine, mais non seulement à la jeunesse, mais à toute la société centrafricaine pour dire que quelque chose de beau peut sortir de ce pays. Et donc, ce prix nous interpelle à revenir à ce que nous avons de meilleur en nous. Si nous avons une éducation bien profonde, c'est là que la paix peut revenir.
Bonaventure, la plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine PIJCA a dressé vendredi le bilan 2018 de ses activités.
Un bilan émaillé d'appui économique aux jeunes désœuvrés et aux ex-combattants du kilomètre 5 pour leur réinsertion sociale. À cela s'ajoutent les formations des jeunes sur l'éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble ainsi que les actions en faveur de la protection de l'environnement.
Pour l'année 2019, la PIJCA compte œuvrer davantage pour l'alphabétisation des filles médiatrices social de Koulumandia au PK22 sur l'axe d'Amara et continuer à appuyer les jeunes en difficulté. Belfort Bangopé, président de la PIJCA, au micro de Jean-Hugues Bagali.
Je pense que nous avons encore du chemin à faire. Cela dépend de l'effort de tout le monde pour que nous puissions atteindre vraiment nos objectifs. Mais déjà, les bilans pour l'année 2018, nous sommes satisfaits de ça. Ce que nous envisageons déjà pour l'année 2019, déjà avec le diocèse de Bossangwa, nous avons un partenariat dans les trois sous-préfectures, à savoir la sous-préfecture de Koki, Nana Bakassa et Makunda. Donc là, déjà, nous avons déjà lancé les activités dans Boire. Nous avons déjà aussi des projets avec les jeunes de Boire et dans Nana Mambéré également, Carnot, Berberati. Et n'oublions pas les défavorisés, ça veut dire que les peuples de Wapu aussi, sont leurs conditions de vie est extrêmement difficile aujourd'hui. Donc cela aussi, nous allons à leur rencontre. Il y a aussi les jeunes de la sous-préfecture de Kui aujourd'hui. Donc là aussi, c'est des activités que nous allons mener au cours de cette année.
En 2018, la plateforme interconfessionnelle de la jeunesse centrafricaine a pu mobiliser plus de 66 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de ses programmes. Pour cette année, son budget se chiffre à plus de 63 millions de francs CFA. Et la page des sports avec Juvenal Koerepédé. Bonjour Juvenal.
Bonjour Rodrigue, bonjour à tous.
Basketball, poursuite de la 8e journée du championnat de la Ligue de Bangui.
Deux rencontres sont au programme à l'ouverture à 15h30. Red Star sera face à Tondema à 17h. Duel explosif entre les Abeilles et Nutek Bantou. Hier, Gospel a battu Béafrica 85-72. Itrésor a eu raison de BEAC 55-54. Jiba Bekages a pris le dessus sur Zarasclo 78-65.
Football, la finale de la Coupe Sirina Yengotere se joue cet après-midi sur le terrain de Sabah.
Justement, à 15h, FC Bibale et Jeunesse Sportive de Conakry, en abrégé GESCO, disputeront le trophée de vainqueur. Mais bien avant cette finale, une autre finale mettra aux prises les minimes de Kina à ceux de Makambo à 14h30.
Football sur le terrain de Koudoukou dans le 3e arrondissement de Bangui. La deuxième demi-finale de la Coupe de la Paix se joue cet après-midi.
À 15h, duel entre Kano Sport et Saint-Michel. Hier, ABC Sport s'est qualifié pour la finale en battant FC Méridien. canadien 4-1. Les deux équipes étaient à égalité un peu partout après les 90 minutes.
Restons toujours en football dans la sous-ligue de Boyrab sur le terrain d'une Dresde 2. Les éliminatoires de cette sous-ligue se poursuivent.
Cet après-midi à 15h, FC Amolo va s'opposer à FC Mandaba. Hier, FC Sympathique a éliminé AMVC 4-3. Le score était de 1-1 au temps réglementaire.
Pendant ce temps, on joue les dernières rencontres du championnat de la sous-ligue de Lucatex en football.
À 14h, Atlas Sport va croiser Don Bosco, suivi à 16h de l'explication entre Scout Foot et Saint-Denis.
Hors de Bangui, le championnat de football de Bosembélé dans Lombela Poko est à sa troisième journée au stade municipal.
À 15h, Astonair disputera la manche avec Ele Club. Hier, Guingoulé de Boyali a disposé de Saint-François de Sales sur la petite marque de 1-0.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. La version langue nationale, c'est tout de suite après la revue à l'international avec Jean-Fernand Koïna.
La revue de presse de Radio Ndekeluka.
Voilà, vous écoutez Radio Ndekeluka à Khartoum, au Soudan, où se poursuit les discussions entre gouvernement et les groupes armés. Pour en savoir plus, Jean-Fernand Koïna au studio avec moi. Jean-Fernand, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les internautes.
Les yeux sont tournés vers Khartoum, au Soudan, y compris à l'étranger.
À Khartoum, difficile pour parler entre les groupes armés et gouvernement. C'est le titre à lire sur France Info. Dans ce pays d'Afrique centrale de 4,5 millions d'habitants en guerre depuis 2013, pas moins de 7 accords de paix ont été signés en 5 ans, sans qu'aucun aboutisse au retour de la stabilité. Le dialogue à venir, préparé depuis juillet 2017 par l'UIA, se veut plus ambitieux que les précédents. Les principaux chefs de guerre armés ainsi qu'une importante délégation gouvernementale se réuniront à la table ronde de négociation. Ces pourparlers pourraient se poursuivre 2 à 3 semaines. Il n'y a pas de date de fin spécifique à indiquer à l'AFP. El Dardiri Ahmed, ministre soudanais des Affaires étrangères. Le dialogue se tiendra à Khartoum, capitale du Soudan voisin, en proie depuis plusieurs semaines à une vague inédite de contestation du pouvoir en place. Ce qui peut apparaître comme paradoxal, le Soudan est l'une des principales plateformes d'approvisionnement en armes des groupes armés centrafricains, note un observateur de la crise à Bangui qui s'inquiète de la partialité de ce pays.
Jean-Fernand, pendant qu'on dialogue, on tue à Ipi.
Waka, 13 civils tués à Ipi par des éléments de l'UPC. Les habitants de la ville de Ipi sont replongés dans la piscose jeudi aux environs de 21h. 13 personnes ont été tuées dans le quartier Diamayakinia et une vingtaine d'autres blessées par balle. Un quartier situé à l'est sur la route de Bria par les éléments de l'UPC. Plusieurs personnes réunies à un lieu de deuil au quartier Diama ont été surprises par des tirs d'armes jeudi aux environs de 21h. 13 personnes tuées par balles et de nombreuses autres blessées, comme le témoigne un habitant de la ville, a noté Radio Ndekeluka.
Et puis en diplomatie, Paris s'inquiète.
Le Drian confirme la présence de la Russie anti-française à Bangui. La réunion de Khartoum entre le gouvernement et les rebelles a été évoquée mercredi par Jean-Yves Le Drian devant les sénateurs. Mais lors de cette audition, le ministre français des Affaires étrangères a surtout ciblé le rôle de la Russie en Centrafrique. Face au sénateur de la Commission des Affaires étrangères de la Défense, Jean-Yves Le Drian s'est félicité mercredi de la tenue de cette réunion entre gouvernement et groupes rebelles sans pour autant crier victoire. Enfin, parce que cela fait très longtemps que l'on souhaite que cette rencontre ait lieu. Nous avons appelé toutes les parties à faire preuve d'esprit de consensus pour y arriver, mais la situation est quand même très confuse et le rôle de l'Union africaine dans cette affaire est tout à fait essentiel.
Pour finir, Patrice Edouard Ngaïsona transféré à la Haye, c'est le titre Jeune Afrique.
Vous l'avez dit, Gérardi, Patrice Edouard Ngaïsona, patron du football centrafricain et ex-milicien, a été transféré mercredi 23 janvier par la France à la Cour pénale internationale CPI pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Ce transfert fait suite à l'accomplissement des procédures nationales nécessaires en France où il avait été arrêté le 12 décembre 2018, a précisé la CPI dans un communiqué. Bonne lecture.